Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez vécu la pire épreuve qu'un père puisse connaître. Vous êtes parvenu à survivre, voire à vivre. Vous le racontez dans un livre où ce n'est pas le comédien, mais l'homme qui tient la plume. Bonjour Patrick Chesnais.
Bonjour.
Alors, le livre s'appelle « La vie est belle, je me tue à vous le dire » aux éditions de l'Archipel. C'est une suite de souvenirs au quotidien, il y a un peu de tout. Et ça va servir de base à cette rencontre qu'on va faire ensemble. Vous étiez déjà venu dans les clés d'une vie voici 2 ans, mais on a beaucoup progressé depuis.
Oui.
Et j'ai encore des tas de questions à vous poser. Bon. Il y a une chose que vous dites dans ce livre, que la promo, on parle de tout, sauf d'un livre ou d'un film. Et bien là, on va faire le contraire.
Oui, j'ai dit ça à un moment, où c'est toujours ce passage où c'est un moment d'humeur, où après avoir fait de la promo dans une journée où il y a eu 8 ou 10 rendez-vous, je suis tombé sur un journaliste, je crois. Donc j'ai écrit ça sur un moment d'humeur ou de ras-le-bol. Je disais que ces gens qui font semblant de se passionner pour votre vie tous les jours à heure précise, c'était ce qu'on appelle un billet d'humeur en journaliste.
Voilà. On va essayer de démontrer le contraire dans les clés d'une vie sur Sud Radio à travers des dates clés comme d'habitude. La première que j'ai trouvée, c'est le 6 octobre 1976. C'est la sortie de votre premier film, Les Naufragés de l'île de la Tortue. Patrick Chesnais, un cauchemar.
Enfin, c'était un cauchemar. Je dirais pas jusque-là, mais c'était une aventure. C'est une aventure extrême, on va dire, où Jacques Rosier, qui était un grand metteur en scène, qui est toujours là, d'ailleurs, qui est toujours parmi nous. C'est un vieux monsieur maintenant, mais je crois qu'il est toujours très en forme. Avait voulu mettre les protagonistes, les acteurs qui jouaient les personnages, dans des conditions même du personnage. Ça se tournait aux Caraïbes, en Guadeloupe, à la Dominique, etc. Donc l'idée, c'était de les plonger dans une situation précaire où on mangeait mal, on dormait dans des conditions terribles, etc. Et évidemment, au bout d'un moment, ça crée des tensions. D'autant plus qu'il n'y avait pas de scénario, c'était une idée, c'était un pitch, c'était quelques éléments de dialogue, c'était... Voilà, et puis il y avait une façon... Moi, c'était mon premier film, j'étais heureux, c'était l'aventure, puis j'avais aussi une petite aventure amoureuse, je découvrais les Caraïbes, j'étais devenu pote avec Pierre Barou et Pierre Richard aussi, d'ailleurs, qui était dans le film.
Et qui a quitté le film très tôt.
Qui a quitté le film, surtout Pierre Barou aussi. Puis j'avais un pote qui était Jacques Villeray... Non, tout allait bien. Non, c'était pas un cauchemar. C'était une aventure extrême, mais formidable. Quand je découvrais. Moi, j'avais jamais fait de cinéma, donc je me suis dit, ah bon, c'est ça le cinéma. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe habituellement. Pas du tout.
Alors, l'île de la Tortue, elle a été rendue célèbre par le Pirate des Caraïbes. Et le nom est né de la forme par Christophe Colomb, qui avait découvert ce bastion pour les flibustiers et boucaniers. C'est lui qui a baptisé cette île, l'île de la Tortue, parce qu'elle ressemblait à une tortue.
Oui, oui.
Alors, au départ, Patrick Chesnais, vous vouliez pas être acteur?
C'est-à-dire que je faisais du théâtre et même du cinéma avec des petites caméras, tout ça étant jeune, mais le fait de vouloir être acteur ne m'effleurait pas, ou ça me paraissait très lointain, vous savez, j'étais en province.
À Rouen,
donc,
oui.
À Rouen, donc très pour les Parisiens. Non, moi, ce que je voulais, c'est être footballeur, d'autant plus que, je l'ai dit et répété, on était plus dans la proximité, puisque c'était les professionnels du FC Rouen, où je jouais en tant que minime ou cadet. Les professionnels qui étaient donc les stars de l'équipe, étaient en première division. Certains étaient dans l'équipe de France de football, tout ça, donc, qui nous entraînaient le jeudi. Donc, si vous voulez, il y avait une espèce de proximité. Ça me paraissait jouable d'être professionnel et de faire une carrière de footballeur, puisque j'étais entouré de mecs qui faisaient... Alors qu'acteur au cinéma ou à la télévision, voire au théâtre, c'est trop lointain pour moi.
Oui, et il y a un grand souvenir de football, comme pour nous tous, c'est la finale de la Coupe du Monde 2018. Là, vous avez vibré à en faire trembler le plancher de l'appartement où vous regardiez cette finale, Patrick Chesnais.
Oui, absolument, oui. Vous savez, moi, je dis toujours que dans certaines circonstances, les buts au football peuvent déchaîner des danses, des sarabandes, de la folie. Les gens s'embrassent, hurlent, sautent, vibrent. Mais oui, c'est... et à tous les âges et toutes les conditions sociales. Hein. C'est ça qui est assez marrant dans le football aussi.
Et vous avez un problème, c'est que vous aimez regarder les matchs quelquefois en différé pour cause de travail. Ouais. Et là, vous essayez de ne pas avoir le résultat. Puis de temps en temps, ça rate complètement. Vous le racontez dans ce
livre. Oui, je raconte. C'était... Vous savez, c'était pendant la... Je ne sais plus quel match c'était exactement, peu importe. Et je jouais au théâtre, et moi j'avais mis au point... C'était quand il y avait des soirs de grands matchs, ma femme venait me chercher au théâtre, je mettais des écouteurs avec du rock à fond, et je m'allongeais derrière, sur la banquette arrière, parce que non seulement il ne fallait pas entendre, il ne fallait pas voir. Parce qu'en cas de victoire, on voit les groupes avec des drapeaux qui... Et en cas de défaite, il ne se passe rien, ou les gens sont tristes, éteints, etc. Donc, pour me préserver de tout ça, je... Voilà. Et un soir où je ne pouvais plus partir directement, parce que j'avais rendez-vous avec des producteurs de cinéma, je me rappelle que j'avais déjà décommandé deux fois, comme vous. La troisième fois, je pouvais difficilement y échapper. Donc, ce soir de match, je suis allé dans des restaurants où je sentais qu'on parlait que de ça, que du match. Donc, je me bouchais les oreilles, je chantais à tue-tête. Après, on est allé boire un dernier verre dans un bar, pareil. Donc, je prenais des risques considérables de savoir ou d'avoir en tout cas une idée du score. Eh ben non, je suis rentré avec ma femme à 3h, 4h du matin, impeccable. Je n'avais aucune indication de quoi que ce soit. Donc, je mets ces magnétoscopes, je mets la cassette. Et à ce moment-là, j'entends un petit pas mutin dans l'escalier. C'est Mamishka, c'est une vieille dame, la grand-mère de ma femme, belge, qui vient de Bruxelles voir un spectacle à la Comédie Française. Elle va voir Jean Le Poulain dans Le Bourgeois Gentilhomme, je me souviens. Il est 4 heures du matin quand même, hein, 93 ans, madame. Elle vient, elle me voit. Ah, Patrick, vous regardez le match. Alors, la France a gagné, un tel a marqué à 12e minute, Topira a égalisé au début de la deuxième mi-temps, et d'un tir magnifique croisé, Jean-Pierre Papin, dans les arrêts de jeu, a donné le. Enfin, voilà. Donc, ça a été fichu. 4 heures du matin, j'étais exsangue. Donc, comme je dis dans le livre, le danger vient toujours là où on ne l'attend pas.
Oui, et il y a aussi beaucoup d'autres choses dans ce livre. On en parle dans quelques instants avec une autre date importante pour vous, le 4 mars 1989. A tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Chesnais.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Patrick Chesnais. Il y a ce livre, La vie est belle, je me tue à vous le dire, aux éditions de l'Archipel. Et une date importante, évoquée d'ailleurs dans ce livre, le 4 mars 1989. C'est un César et vous n'êtes pas là.
Ah, d'accord, oui. Ben non, je suis pas là, je suis en tournée de théâtre à Annecy, je me souviens, et...
Jouer Joe Haig.
Je joue Joe Haig, c'est une pièce magnifique. Et on obtient un énorme succès. Et je m'étais habillé parce que je sentais que le soir, j'allais fêter quelque chose. Donc inconsciemment, j'avais le goût du succès déjà. J'avais le goût du mec vainqueur de quelque chose. Je pensais vaguement au César, je le savais. Mais pendant la représentation, j'ai totalement oublié cette histoire de César. J'étais pris par la représentation. Et à la fin, simplement, c'est ma partenaire qui me dit « tu l'as ». Et je pensais qu'elle faisait allusion à la valise que je dois sortir de scène à la fin de la représentation, qui est très important dans la mise en scène, et que j'avais oublié la veille. Et une erreur ça ne veut plus rien dire, cette sortie sans valise. Donc elle m'a dit « tu l'as », je pensais qu'elle faisait allusion à la valise. Je lui ai dit « bah oui, évidemment que je l'ai, elle est là, pas deux fois de suite quand même ». Et à ce moment-là, j'ai entendu une autre actrice qui, de l'autre côté, a fait une intervention en disant que j'avais obtenu le César. Et à ce moment-là, comme la représentation avait été très bonne, plus le César, qui est évidemment toujours extrêmement prestigieux, ça a donné lieu à des applaudissements et à une espèce de, comment dire, d'intervention debout, musclée du public qui tapait des pieds, tapait des mains pendant très très longtemps, c'est très agréable.
Alors c'était la lectrice de Michel Deville, vous aviez oui. Le César du second oui. rôle. Michel Deville qui a pris sa retraite après 29 longs métrages, après un fil à la patte en 2005. Il a travaillé presque jusqu'au bout, il est toujours en bonne santé.
Oui, il écrit des poèmes, écrit des très jolis poèmes.
Alors ce César, c'est la seule fois où vous n'êtes pas allé. L'autre fois vous êtes allé, vous n'avez rien eu.
Oui.
Mais le métier de comédien, c'est venu un matin et vous avez dit à votre mère, je veux être un comédien, et elle vous a dit, rendors-toi.
Oui, elle m'a dit, rendors-toi, il n'est pas l'heure d'aller à l'école. C'est parce que j'ai brusquement pris conscience que footballeur, ça allait être compliqué, parce que je m'étais rendu compte que dans mon club, à mon petit niveau, il y en avait qui étaient meilleurs que moi, notamment celui qui me remplaçait. J'avais un remplaçant à mon poste, j'étais le titulaire. Et je trouvais que quand il rentrait, il était quand même plus performant que moi, il marquait des buts, tout ça, chose que j'avais du mal à faire. Et je me suis dit, si déjà à mon niveau, il y a des types qui sont meilleurs que moi, ça va être chaud pour faire une carrière et pour m'imposer dans le milieu, quoi. J'en ai pris conscience très vite. Et du coup, bah, il y a une espèce de révélation qui s'est imposée, c'est que je faisais du théâtre depuis tout petit. J'avais installé des théâtres dans ma chambre,
je faisais des guignols.
Oui, mais après un vrai théâtre que mon père avait construit, je faisais toujours un peu l'acteur, un peu. Donc ça s'est imposé tout à fait naturellement.
Et il y a eu quand même un cauchemar, c'est René Simon, grand professeur, qui n'a pas cru en vous, Patrick Chesnais.
Non, je ne sais pas s'il n'a pas cru en moi, mais je n'étais pas dans le moule, vous savez, au conservatoire, moi j'étais pas dans le... J'essayais d'être un bon élève, mais je ne l'étais pas.
C'était subversif, je crois.
Oui, c'était. J'étais considéré comme subversif, alors que moi, je voulais toujours être un bon élève et faire plaisir à mes professeurs. J'étais très docile, très. Mais que je le veuille ou non, j'installais, quand j'entrais en scène, quelque chose qui était décalé, qui n'était pas dans le moule, qui n'était pas dans la convention de ce qui était instruit au conservatoire.
Et ça ne vous a pas empêché d'avoir un premier prix de conservatoire,
oui.
Ce qui est un grand souvenir. Et à l'époque où le conservatoire, il y avait des prix.
Ben oui, il y avait des prix, parce que c'était l'époque où le... Et c'est dommage d'ailleurs, parce que à l'époque, les concours du conservatoire étaient un rendez-vous médiatique, culturel, important, très important. Et je le dis dans mon bouquin, il y a le Festival de Cannes, il y a les Césars, il y avait aussi les concours du conservatoire où le tout Paris culturel, médiatique, ça se précipitait, chacun jouait son cheval et machin, etc. Et c'était un événement. Moi, quand j'ai eu mon premier prix, j'ai eu la première page du Figaro en photo. Vous imaginez la même chose maintenant ? Non.
Voilà.
Le soir, j'étais invité au journal télévisé pour parler de mon prix, quoi. Donc, ça avait une grosse résonance dans le public et dans les médias, ouais.
Oui.
Mais maintenant, c'est foutu, c'est fini.
C'est fini tout ça. Et moi, j'ai assisté, je crois, à l'un des derniers concours où il y avait Jean-François Balmer qui débutait. Avant, il y avait eu Francis Perrin, des gens très importants.
Oui, Villeray, Weber, tout ça, Dussolier,
Nathalie
Baye. Oui. C'était des événements... Parisien, hein, voilà, l'espace de 2-3 jours, ça durait 2 ou 3 jours.
Alors, vous n'avez plus jamais arrêté de faire du théâtre et du cinéma, votre palmarès est impressionnant, Patrick Chesnais, et dans les films dont vous conservez un bon souvenir, il y a La Braconne.
Oui, absolument. C'est drôle que vous m'en parliez, parce que j'ai la productrice qui m'a appelé hier pour me dire qu'elle avait lu mon bouquin, qu'elle avait été très touchée de voir que je parlais de ce film. C'est un très beau film.
Et un film qui s'est tourné en 6 semaines dans une ZAC à Tours.
Oui, absolument, oui. C'est l'histoire d'un vieux malfrat, d'une petite caïra qui font des coups un peu foireux, un peu... Et qui... Bon, le pitch est un peu convenu, hein, et qui tisse des relations au départ un peu antagonistes, de cultures, d'âges différents, puis peut-être qu'elles se rapprochent, ça devient des relations filiales et très fortes. Et c'est un film magnifiquement écrit... qu'aurait dû trouver un public qui ne l'a pas trouvé. Pourquoi ? Parce que le distributeur a déposé le bilan. C'était un assez gros distributeur, mais donc il y avait un plan social. Donc c'était le cadet de ses soucis. Il n'y a pas eu d'affiche, il n'y a pas eu de plan de lancement. Et tout. Donc le film a échoué, mais ça reste un très très beau film.
Oui, et d'ailleurs, quelquefois, il y a des films que vous avez tournés, vous avez été coupé au montage, Patrick Chesnais.
Oui, c'est arrivé assez rarement. Il y en a un dernièrement, oui, Mon bébé, avec Sandrine Kiberlin, qui est une actrice que j'admire beaucoup et que une femme que j'adore. Mais oui, sans qu'on me dise quoi que ce soit, je ne trouve pas ça très élégant. Ce que je comprends, qu'on puisse couper au montage pour tout un tas de raisons, qui sont des raisons de longueur, des raisons de traiter tel aspect, pas tel autre, hein, mais qu'on me le dise.
Oui, ça semble plus logique. Et il y a un film aussi qui vous a marqué. Et ce film, au départ, c'est une chanson de Serge Gainsbourg.
Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille.
Ah oui.
Là aussi, vieille canaille, c'est un beau souvenir, Patrick Chesnais.
Oui, c'est génial. C'était avec Berléand et Brasseur à Marseille. Formidable, avec Arnaud Sélignac qui mettait en scène. Oui, oui, c'est l'histoire de, ça s'appelait Vieille Canaille, de trois vieux malfrats qui faisaient des coups pour, voilà, je sais pas, raconter l'histoire. Il y avait cette chanson qui revenait et qu'on a enregistrée en studio en se marrant, en se poilant. Et le résultat est formidable.
Oui.
Formidable avec Brasseur, Vieille Canaille. Et nous deux, moi, c'est plutôt un peu plus dans, wow, dans le groove et Berléand qui déconne. Non, c'était vraiment bien.
Et à propos de chansons, vous avez quand même fait Solidez, ce qui est assez étonnant. Solidez auquel personne ne croyait au départ et Antoine Decaune était le premier à y croire, Patrick Chenet.
Oui, Solidez, je l'ai fait, mais je n'ai pas fait en tant que chanteur, je l'ai fait en tant qu'acteur.
Oui, mais...
Acteur qui jouait un chanteur. Donc j'étais filmé sur scène avec un groupe. Avec un orchestre, avec un groupe de choristes, de femmes choristes, que j'appelais Claudette. Et avec les 40 000 personnes qui étaient là, qui étaient les vrais spectateurs, on leur a demandé de rester pour tourner le film. Et moi, j'ai chanté devant 40 000 spectateurs. Deux fois, on a fait deux prises avec des mecs qui hurlaient Clovis, 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 c'était le nom du personnage. J'avais été présenté comme tel, Clovis. Clovis. Et je suis allé, je me suis lâché, j'ai pris un pied, mais d'enfer, quoi. Je me suis dit que je voudrais être chanteur plus tard, en sortant de scène.
Et ça n'a pas été le cas. Déjà, être
non,
acteur...
Surtout que j'avais déjà plus de 55 ans.
Et il y a aussi déjà la comédie, et vous avez compris en tournant Nos Limites, de Luc Besson, que la comédie n'était pas à la portée du premier venu, Patrick Chenet.
Oui, c'est-à-dire que... C'est toujours la même chose. Justement, c'est René Simon qui me disait ça. C'est-à-dire qu'acteur, on a l'impression que tout le monde peut le faire, puisque... Quand on voit des acteurs au cinéma, même au théâtre, mais disons au cinéma, ils rentrent, ils disent « Tiens chérie, passe-moi le sel, mais pourquoi t'es rentré si tard cette nuit ? Non, je ne veux rien savoir, etc. » Ce qu'ils disent et font tous les jours, pratiquement, dans d'autres termes. Donc on a l'impression que c'est à la portée de tout le monde. En fait, alors que c'est vrai que pour être violoniste ou danseur ou chanteur, il faut s'entraîner plusieurs heures par jour, c'est compliqué, c'est une vraie discipline, un vrai truc. Alors l'acteur, on a l'impression que c'est pas forcément une discipline, alors qu'en fait, si, aussi, d'une autre manière, bien sûr.
Et puis vous avez réalisé des films, et il y a le premier film, Charmant garçon, oublié par certains, mais qui a un fan club, je crois, Patrick Chenet.
Oui, c'est un film qui a pas très bien marché. Une fois de plus, il a été extrêmement mal distribué, enfin, il a été même saccagé à la sortie, parce qu'on savait pas exactement comment le positionner, enfin, ça fait partie des bizarreries du cinéma. Et oui, c'est un film qui a bénéficié d'une presse, mais unanime, quoi, dans le monde, dans l'IB, dans les journaux plus, on va dire, populaires ou classiques, comme, je sais pas, Le Parisien ou Paris Match, tout ça, ça a été unanime, sauf un ou deux. Voilà. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de satisfaits pour ce film, beaucoup de compliments, et y compris un fan club qui s'est formé, maintenant ça doit être déformé, mais, et qui apprenait par cœur, qui avait appris par cœur les répliques du film. Ouais.
Il y a beaucoup d'autres choses à raconter sur vous. On en parle dans quelques instants à travers une autre date récente, le 23 janvier 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Chenet.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Patrick Chenet. J'en ai parlé tout à l'heure, le 23 janvier 2020 est sorti De la vie est belle. Je me tue à vous le dire, un livre aux éditions de l'Archipel. Alors pourquoi un livre aujourd'hui avec plein de souvenirs comme ça et pas Patrick Chenet ?
C'est parce que j'avais écrit un premier livre qui était un livre particulier, un livre très intime, que j'avais beaucoup hésité à écrire, mais que j'ai fait finalement pour différentes raisons, sur la disparition de mon fils, sur nos rapports, pour essayer de faire vivre mon fils d'une autre manière un peu plus longtemps. Et j'avais reçu énormément de courriers et de demandes de et après, est-ce que vous avez l'intention de continuer à écrire, etc. On voudrait, enfin, m'encourageant à écrire, pas forcément sur le sujet de mon fils, hein, mais voilà. Donc quand les éditions de l'Archipel sont venues me demander, j'ai dit bah oui, ça tombe bien, ça fait un bout de temps que je voulais. Et donc c'est un journal d'aventure, écrit au jour le jour, avec des évocations, des souvenirs, des rencontres, des amours, bien sûr. Ça parle du métier, ça parle des expériences, ça parle c'est quoi être acteur, c'est quoi être metteur en scène, comment on fait, ça parle de tout ça. Mais je vis ça toujours comme... j'ai écrit ça comme un livre d'aventure, comme un recueil de nouvelles qui, 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 qui parlerait de chaque aventure d'une façon plus ou moins, parfois très courte, parfois ça se déploie, ça prend son temps. C'est les aventures d'un type, et ce type, il se trouve que c'est moi.
Voilà. Alors, votre fils Ferdinand, qui est mort donc, dans un accident de voiture en octobre 2006, est très présent en filigrane, et vous évoquez une association Ferdinand que vous avez créée, qui sont une aide pour des films pour sensibiliser les jeunes. Ça, c'est important pour vous.
Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que, oui, mon fils... C'est pas un livre comme le premier, mais je ne peux pas parler de ma vie sans parler de mon fils disparu, donc il va et vient, si je peux dire. Enfin, parfois il apparaît, parfois il disparaît un bout de temps, parfois son souvenir ressurgit, des fois où, des moments... voilà. Alors oui, j'ai créé une association qui s'occupe de sécurité routière, surtout en ce qui concerne les jeunes gens, sensibiliser le danger de la conduite en état un peu alcoolisé chez les jeunes gens. Donc la Fondation Vinci Autoroute m'a proposé de travailler avec eux sur le sujet. J'ai demandé à des grandes signatures des cinémas français de participer, de faire des petites œuvres cinématographiques sur le sujet, des œuvres courtes, bien sûr, 2-3 minutes. Donc je suis allé trouver les grands médias de cinéma, Gaumont, IGC, etc., etc. Et puis les grands médias télévisuels, et tous ont marché. C'est vrai que les films étaient formidables, et il y a eu des campagnes sur un mois où on passe en prime time, où on passe en avant-film pour les cinémas, ces petites œuvres cinématographiques que j'ai conçues, qu'on a conçues avec les créateurs, comme des petits films, évidemment, qui donnaient un message, mais c'était aussi il y avait un scénario, il y avait une histoire à raconter d'une façon très cursive, puisque c'est 3 minutes, mais voilà. Et je pense que ça a dû avoir, d'après tous les spécialistes, ça a eu un impact obligatoirement qu'on peut difficilement mesurer, mais même si on n'a sauvé qu'une vie, bah ça valait le coup, ça vaut le coup.
Ça vaut le coup. Alors, vous évoquez aussi votre vie et les dangers de votre vie, car vous avez failli mourir à plusieurs reprises. Patrick Chesnais, d'abord, vous avez failli être tué en Israël.
Oui, alors je ne sais pas si j'ai failli être tué, mais enfin, en tout cas, c'était très chaud. Et oui, c'est-à-dire que c'était un type journaliste au Jérusalem Post, qui était français, qui était du Sentier, d'ailleurs, qui s'était installé en Israël et qui m'a emmené dans les territoires... des petites villes palestiniennes qui étaient pendant, juste après l'intifada, où c'était toujours cette petite ville palestinienne dont j'ai oublié le nom, qui était convoyée à la télé, si vous voulez dire, qui était vraiment le centre de la révolte des pierres. Et ça s'était calmé, donc il m'a emmené là-bas pour visiter, pour voir comment ça se passait. Voilà, et évidemment, ça ne s'est pas très bien passé. C'est-à-dire qu'à un moment, il m'a dit, bon, allez, ça va, on rentre, la voiture, on l'avait laissée en haut d'une route, en haut du village. Il m'a dit, vas-y, on rentre. J'ai dit, mais déjà, on a pas dit, non, vas-y, rentre. Allez, on y va. Et j'ai senti une certaine tension, et effectivement, 2 minutes après, j'ai reçu un petit caillou sur la tête, et un deuxième, je me suis retourné, il y avait 3-4 types qui jetaient des pierres, donc comme... Tifada, hein. Et puis alors j'ai commencé à flipper, hein, grave, et lui a été armé, il avait un pistolet, donc il a commencé à le brandir pour intimider, je me suis retourné, ils étaient 10, 15, et ça partait de partout, j'en ai très très mal barré, comment on fait? La voiture était très loin, alors est-ce qu'on court, ou alors est-ce qu'on va vers eux, on leur explique que non, je suis un acteur, etc. Ah, non, ça c'était pas la peine. Et puis, effectivement, est arrivé à un moment en haut de la colline, c'est une chance extraordinaire, mais une patrouille israélienne qui, d'abord, s'est arrêtée, ne nous a pas vus ou a continué sans tenir compte des gestes qu'on faisait, d'appel, quoi. Finalement, ils ont dû réfléchir qu'il se passait un truc, ils ont fait marche arrière, et là, ils sont descendus du camion, enfin, avec leur... magnifique fusil d'assaut, j'appelle parce que ça fait. Et qui nous ont tiré de ce mauvais pas, quoi. Voilà.
Et vous auriez pu aussi avoir de gros soucis le 13 novembre 2015, car vous deviez aller au Stade de France le soir des attentats, Patrick Chesnais.
Oui, c'est ça, je devais aller au Stade de France. Et puis, je suis pas avec mon fils Victor à l'époque, qui était un jeune homme, et il avait un contrôle le lendemain très important, et sa mère s'opposait formellement à ce qu'il allait au Stade de France. Ça leur fait coucher trop tard. Donc j'ai décidé de regarder à la télé, alors que j'avais mes places au Stade de France et tout, mais pour que voilà, tout ça soit tranquille et apaisé. Et oui, et simplement, j'ai reçu un texto de ma fille qui m'a dit « J'espère que vous n'êtes pas au Stade de France. Pourquoi m'envoie-t-elle ça ? On regardait le match à la télé, c'était plutôt un bon match. On gagnait. » et puis bon, bah, on a découvert qu'il y avait... À la fin du match, le type, plutôt que des commentaires, ou le commentaire de, vous savez, de Didier Deschamps, oui. Tout de suite, et on rend l'antenne, il se passe des choses à Paris. Alors j'ai compris qu'il y avait un truc, j'ai zappé sur BFM ou... Et effectivement, oui.
Il se passait des choses. Et puis, oui. Il y a eu un incident aussi qui a marqué les spectateurs d'une pièce qui s'appelait « Qu'est-ce qui frappe ici, si tôt ?» à Montparnasse, où un spectateur n'était pas très calme. Un spectateur qui avait été invité en plus, apparemment, Patrick Chéné.
Ça, c'est pas... Oui, non, ça, c'est... Vous savez, je ne suis pas très fier de cet épisode, mais enfin, il y a des moments où on ne sait pas pourquoi, comment on réagit. C'est-à-dire que quelqu'un nous... C'était au théâtre Montparnasse à Paris, donc c'était un endroit... très prestigieuse, c'était un des plus beaux théâtres de Paris, le Théâtre Montparnasse. Et on jouait une pièce qui n'avait pas un grand succès, et c'était une pièce assez dure, d'ailleurs, où j'étais un preneur d'otages qui s'immisçait dans une famille bourgeoise, et tout ça. Et des gens à qui ne ça plaisait pas mettaient en boîte le spectacle, faisaient des réflexions, enfin, c'était très désagréable et très... Ça saccageait le spectacle, et y compris pour les autres spectateurs qui avaient payé leur place. Et donc, à un moment où je devais m'écrouler en pleurs, et c'était un moment compliqué à jouer, déjà, en temps normal. Et alors là, je savais qu'il ne fallait pas qu'il y ait de manifestation dans la salle, sinon ça allait me poser un gros problème. Et au moment où je m'écroule dans cet état, j'entends « Ah, il pleure !» Donc, alors là, je me suis levé. J'ai demandé au régisseur qu'on fasse la lumière dans la salle, c'est rare comme au théâtre ça, qu'on voit un peu qui est dans la salle. Le régisseur n'était pas là. Donc je dis, bah, venez un peu sur scène, vous êtes dans le noir, moi je suis dans la lumière, c'est très courageux, venez qu'on vous voit. Ah oui, c'est allé très fort. Et le mec me dit, viens là toi. Et voilà. Donc si vous voulez, c'est des moments où on ne réfléchit pas. Il n'y a aucune réflexion, il n'y a pas une décision, même un choix à faire, même petit, en disant j'y vais pas, non, j'y vais pas, c'est pas possible. C'est-à-dire que dans le millième de seconde qui a suivi, je me suis retrouvé en train de courir dans la fosse d'orchestre et de courir vers l'endroit où j'avais localisé les gens, etc. Et j'ai eu une réaction inappropriée, parce qu'il faut toujours être maître de ses nerfs. J'ai pris le type et je lui ai donné ce que j'appelle un coup de boule, mais c'était... plus une caresse, que c'était impressionnant à voir, mais c'est pas pour faire très mal, quoi. C'était un geste comme ça que j'affichais plus qu'une volonté de faire mal. Mais enfin, ça a été quand même un gros scandale. Tout le monde est intervenu, les pompiers de service, les ouvreuses, etc. Mais après, tous les gens qui étaient dans la salle, il n'y en avait pas énormément, c'était pas un gros succès, sont venus me voir dans les loges après pour me dire combien j'avais eu raison, qu'ils étaient avec moi, etc.
Oui, et c'est arrivé à Fernand Reynaud qui ne supportait pas le moindre bruit dans la salle. Ah, oui. Et un jour, il y a deux spectateurs qui commencent à manger des bonbons. Donc il leur fait une remarque, il continue. Il est descendu dans la salle, il leur a pris les bonbons, il les a jetés pour continuer son spectacle et il a fait sortir les spectateurs.
Oui, alors moi, on m'a raconté une histoire différente à propos de Fernand Reynaud. C'est pareil, il y avait deux personnes au premier rang. Je ne sais pas s'ils mangeaient des bonbons, mais en tout cas, qui ne riaient pas du tout. Et qui regardait ailleurs, et qui était assez difficile. Il a commencé à un, et à l'entracte, quelqu'un leur a dit, mais monsieur, mais Fernand, ils sont aveugles, ce sont des non-voyants, c'est des fans de toi, mais ils sont aveugles. Donc, alors la deuxième partie, ça a été, mais il a voulu presque les faire monter sur scène, il a fait les aveugles, mais gentiment, bien sûr, il les a nommés, encouragés, etc. C'était assez marrant, paraît-il, je sais pas là. Hein.
Dans ce livre, vous racontez aussi votre mai 68 avec les manifs dans la journée et Régine le soir, ce qui est quand même assez étonnant, Patrick Chéné.
Oui, voilà, c'était le parcours d'un jeune homme de son époque, c'est-à-dire que qui faisait les barricades le soir en prenant quelques risques. En 68, c'était une fête magnifique, dangereuse aussi un peu, faut faire attention. Et puis qui allait se remettre de toutes ses émotions le soir, tard, dans une boîte de nuit à la mode qui était chez Régine à Montparnasse, et qui, en plus, faut bien dire, bénéficiait d'une cote, parce que le 68 tard, à l'époque, était très tendance. Et moi, physiquement, j'étais le 68 tutard absolu. C'est-à-dire que j'étais un peu grand, j'avais une tête de grand duduche, les cheveux longs. J'étais très 68-art physiquement. Et donc, toutes ces jeunes filles de cette heure avancée de la nuit, un peu alcoolisées, venaient à moi. Et c'était, c'est pas désagréable, c'était un peu facile, mais bon.
Ça marchait bien. Ouais. Et vous dites dans votre livre aussi, Patrick Chesnais, que le temps passe trop vite et que vous voudriez être tout le temps un peu plus tard.
Oui. Oui, oui, c'est vrai. J'ai du mal à comprendre pourquoi. C'est-à-dire quand je me lève le matin, je voudrais tout de suite être au rendez-vous de l'après-midi ou au rendez-vous de la soirée. Avoir fait ça, avoir accompli ça, avoir lu ça. Je voudrais que ça soit fait. J'ai envie que ça soit fait, que ça soit derrière moi, d'avoir accompli quelque chose, même un petit truc. Même un peu de sport, un peu de jogging, ou avoir lu un article dans Le Monde qui m'intéresserait, mais l'avoir fait.
Eh oui.
Est-ce que c'est une façon de vouloir remplir absolument la journée et qu'elle serve à quelque chose, qu'elle ait un sens, qu'elle veuille dire quelque chose ? Je ne sais pas.
Voilà. En tout cas, bah, vous l'avez fait, cette émission, Les Clés d'une Vie. Ce livre, vous l'avez fait, et il y a plein d'anecdotes que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. La vie est belle, je me tue à vous le dire, aux éditions d'Archipel. Et puis, ben, vous revenez quand vous voulez sur Sud Radio, dans Les Clés d'une Vie, car comme vous, nous parlons vrai.
Merci beaucoup.
Merci Patrick. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres Clés d'une Vie. Bonne journée. Merci. À demain.